Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistant's assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 for 3 month plan equivalent to $15 per month required. New subscribers only. Renew for 12 months to lock in savings. Taxes and fees extra. Additional restrictions apply. See full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bienvenue sur Tant que je serai noire, le podcast qui s'interroge sur le désir et non-désir de maternité des femmes noires. Alors pour celles et ceux qui nous suivent, vous savez très bien que le but du podcast est de créer un espace bienveillant, dénué de racisme, de sexisme ou de classisme. Un espace dans lequel la parole est donnée à des femmes noires sur un sujet pour lequel la parole leur est très peu donnée dans les médias mainstream. Depuis le lancement, nous avons découvert le récit, l'expérience de 6 femmes, aux histoires, aux parcours et aux relations à la maternité différentes. Certaines d'entre vous se sont reconnues dans les petits bouts d'histoire de la vie de l'une et de l'autre. Et du coup, pour terminer cette première saison, j'ai souhaité faire appel à une professionnelle du sujet, une psychologue, afin de parler du désir et non-désir de maternité. Du coup, je reçois aujourd'hui Annabelle. Bonjour Annabelle.
Bonjour à toutes et à tous.
Est-ce que tu veux te présenter aux auditrices et auditeurs ?
Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Annabelle Yayem Bessot. Je suis psychologue, spécialisée en clinique, psychopathologie interculturelle. Et actuellement, j'exerce au sein de mon cabinet dématérialisé. Donc, je me considère comme psychologue digitale.
Super. Voilà. C'est un super concept. Et du coup, quand tu dis que tu as une spécialisation en tout ce qui est interculturel, bah moi, ça me fait tout de suite tilt. Pourquoi, en fait, c'est si important, surtout, je pense, pour les communautés afrodescendantes
Alors, à propos de ça, à mon sens, en fait, tous les psychologues devraient être spécialisés en interculturel et en transculturel, mais actuellement, ce n'est pas nécessairement le cas. D'accord. Donc moi, c'était une mention au sein de mon master en psychologie clinique et psychopathologie,
d'accord,
qui est le master, enfin un des masters les plus répandus pour les personnes qui travaillent en libéral, en milieu oui, hospitalier, protection de l'enfance, justice. Enfin, la liste est très longue.
Oui, oui, oui.
Voilà. Et donc l'aspect interculturel est important pour moi dans le sens où les cultures de la personne, parce qu'on peut pas dire la culture, on a, voilà, on est entre plusieurs cultures, identités multiples, etc., peuvent avoir évidemment un impact sur le psychisme.
Oui.
Voilà, j'aime beaucoup aussi parler aux personnes que j'accompagne du fait que tout est systémique.
Oui.
Voilà, on parle souvent d'oppression systémique, mais en dehors des oppressions, tout est systémique.
Effectivement.
On voit qu'on est voilà, au sein de plusieurs systèmes, au sein desquels on navigue, et on navigue aussi entre nos cultures.
Oui.
Pour les personnes afrodescendantes, comme tu y faisais référence, voilà, on peut voir aussi le fait de naviguer entre plusieurs cultures. On peut être une femme noire, comme nous sommes, deux femmes noires en train de discuter sur ce sujet-là, mais nous ne sommes pas que deux femmes noires.
Oui.
Moi, je suis peut-être une femme noire d'un côté, mais je suis aussi psychologue, je suis aussi l'enfant de mes parents, je suis aussi professeur de yoga. Bon, voilà, on navigue à travers tout ça. Donc, pour moi, c'est important de pouvoir poser les choses par rapport à ça en thérapie et pas uniquement de se dire, bon, bah voilà, on va travailler sur les relations, le système familial, etc., en excluant le fait que, oui, mais... Moi, par exemple, j'ai un père tchadien, etc. C'est différent d'un père français qui a grandi en France. J'ai une partie de ma famille qui est dans un ailleurs, qui ne correspond pas du tout à l'ici et maintenant qu'on a ici.
C'est super intéressant et je pense que du coup, dans le cadre de ce podcast qui interview du coup des femmes noires qui s'interrogent sur leur désir ou non-désir de maternité, c'est vrai que l'aspect culturel était très présent hein, dans la plupart des interviews. Et du coup... Aujourd'hui, j'ai décidé de t'inviter pour répondre à cette fameuse question. D'où vient ce désir ou non-désir de maternité? Tata.
c'est le petit teaser aussi, là. Hop, tata. Alors, par où est-ce qu'on pourrait commencer? Parce que c'est vrai que c'est une question qui est relativement large, que je pense qu'on va, on va dérouler progressivement au sein de notre entretien.
Oui.
Moi, la première chose que je me suis dit quand tu m'as parlé de désir d'enfant ou non-désir, je me suis dit subjectivité.
Oui.
Chaque sujet, chaque personne a son histoire et son vécu et sa vision des choses par rapport à ça.
Oui.
Donc je me suis dit, d'un côté subjectivité, je me suis dit histoire intime du sujet. Parce que c'est vraiment quelque chose d'intime et qui peut parfois être mise à nu, entre guillemets, par des personnes qui vont demander, passer un âge. C'est comme si en tant que femme cis, etc., il y avait une date de péremption.
Oui.
Et 30 ans, là, c'est comment, hein? c'est l'heure, en fait, il faut commencer à faire des bébés.
C'est ça.
Parce qu'après, c'est trop tard. Mais qui a dit que c'était trop tard? Qui a dit qu'on devait faire des bébés là maintenant tout de suite? Est-ce que je suis obligée de faire des bébés? Et puis pourquoi des déjà? Enfin, ouais. est-ce que voilà. Enfin, je pense qu'il y a tout ça qui se mêle de vraiment l'histoire intime. Et puis après, il y a aussi la question de l'environnement.
Oui.
Il y a la question de l'environnement culturel, socio-économique. Je pense qu'il y a tout ça aussi qui se mêle.
Ouais.
En général, j'ai l'impression, je crois que j'ai vu des choses passer par rapport à ça, mais par exemple, il y a plus de célibataires en général dans les grandes villes comme Paris.
Oui.
Si on parle de la France métropolitaine, ce ne sont pas nécessairement les mêmes rythmes de vie. Il y a la question de la superficie des appartements aussi.
Oui.
Quand on voit de jeunes couples de dire, mais pourquoi on habite dans un F2? C'est-à-dire, je vais peut-être préciser un appartement avec une chambre. C'est pas évident. On peut même habiter à deux en studio et c'est pas du tout la même chose qu'habiter dans d'autres villes en dehors de Paris.
Effectivement.
Et d'avoir plus d'espace, de pouvoir faire des achats immobiliers plus facilement.
Oui.
Je pense qu'il y a quelque chose qui se mêle par rapport à ça aussi.
Oui, oui, oui. Et donc, du coup, c'est vrai que la question est très, très large. Donc, comme je disais, avec l'interview que j'ai fait avec les différentes femmes, l'aspect culturel était très présent.
Mmh.
Donc, typiquement, je sais que dans pas mal de familles d'origine africaine, c'est très large, je sais, mais on a souvent cette tendance à pousser les femmes à devenir maman. Et du coup, souvent, on demande, mais pourquoi c'est si présent au sein de nos communautés? Est-ce que, du coup, c'est quelque chose qui est prédisposé en nous? C'est la question qu'on se pose. C'est pourquoi est-ce que quand une femme noire se marie, si elle arrive à se marier, pourquoi est-ce qu'on tout de suite, on va lui demander, alors c'est pour quand? Et quand elle en a un, alors c'est quand le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. D'où viendrait, en fait, tout cet imaginaire, peut-être? Est-ce que c'est une question auquel tu penses pouvoir répondre?
Alors, je peux essayer, dis-moi. Je peux éventuellement apporter des éléments de réponse, mais c'est vrai qu'après, il peut y en avoir plusieurs.
Oui.
Déjà, moi, je me dis injonction sociétale.
Oui.
Donc, c'est valable dans les sociétés dites, entre guillemets, modernes et contemporaines, pardon. Mais c'est valable sur le devant de la scène pour les sociétés traditionnelles, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Le fait qu'en tant que femme, l'accomplissement en tant que femme, c'est d'abord de se marier.
Oui.
Et c'est ce qu'on retrouve dans nombre de sociétés traditionnelles africaines, sans en nuançant un petit peu quand même pour pas trop essentialiser, mais ce sont encore d'autres problématiques à aborder. Mais il y a l'idée que en tant que femme, on dit aux petites filles que plus tard tu vas te marier.
Oui. Il y a ce conditionnement.
Le conditionnement, voire on prépare les petites filles à se marier plus tard.
Oui.
On leur apprend à cuisiner, à faire le ménage, etc. Oui. C'est pas pour elles, en fait. C'est pas pour entretenir une maison pour elles seules.
Oui.
Non, c'est pour entretenir une maison avec leur mari et avec leurs enfants. Donc il y a tout qui est emboîté.
Ouais.
D'abord on se marie et dès lors où il y a union de deux personnes, mais aussi et surtout de deux familles, parce qu'à la base le mariage c'est pas uniquement une personne A et une personne B, ce sont deux familles. Suite à cela, de dire maintenant il faut faire des bébés.
C'est ça.
Il faut faire des bébés. La suite logique des sociétés traditionnelles et le poids que tout cela peut représenter. Et ensuite, comment est-ce qu'on vit les choses aussi dans la diaspora?
Ouais.
Comment est-ce qu'on vit les choses quand on vit de part et d'autre de la fille, de l'Afrique, pardon. Et puis comment vit-on cela avec le voyage, l'immigration, les expatriations et le fait d'avoir grandi parfois ici avec des parents de là-bas. Donc voilà, ce tiraillement aussi un peu entre les deux, de dire oui, mais bon, voilà, peut-être que moi, ma mère, elle m'a eu à 20 ans parce que elle s'est mariée à 18 ans et puis que c'était comme ça. Mais voilà, des jeunes femmes qui ont la trentaine, afrodescendantes, qui se disent, bah oui, mais moi, peut-être que ce n'est pas ce que je souhaiterais.
Exactement.
Déjà, est-ce que j'ai envie de me marier?
C'est
alors
ça.
Là, déjà, la grande question avec les tontons, les tantines. Bon, déjà, est-ce que c'est une obligation de se marier? Moi, on m'a pas dit ça.
Mais c'est, ouais, c'est, je pense que, comme tu l'as très bien expliqué, parce que la plupart des femmes qu'on interviewe aujourd'hui, bah, c'est des personnes qui sont nées en France, et du coup, ont cette notion de mes parents ont eu leur vécu, moi je veux avoir mon histoire, et comment je me positionne, en fait, par rapport à tout ça. Et souvent, par exemple, quand on parle de non-désir, moi, on m'a déjà dit, bah, tu veux pas d'enfant, tu fais trop ta blanche, par exemple. Et du coup, bah, c'est violent parce que du coup, tu te dis, bah, enfin, c'est juste que c'est moi aujourd'hui. Peut-être que toi, à l'époque, c'était inconcevable parce que tu es née en Afrique, t'as vécu là-bas, etc. Mais aujourd'hui, moi, je suis en France et au vu de mon histoire, le fait que j'ai fait des études, que voilà, je travaille, etc., bah, j'ai d'autres objectifs, en fait. Et comment, en fait, se positionner en tant que personne? Parce que comme tu l'as dit, avant d'être une femme noire, on reste quand même des êtres humains, on a notre propre vie, notre propre histoire et plein d'identités. Bah, comment est-ce que, quel conseil tu donneras à une jeune femme qui se bat, en fait, par rapport à ce sujet-là?
Alors là, c'est une très grande question. Moi, je dirais que ça, encore une fois, c'est vraiment l'histoire intime du sujet, mais c'est vrai qu'il y a aussi tout l'aspect familial dont, auquel tu faisais référence avec le côté, voilà, ce sont les blancs, en fait, qui t'ont dit de faire comme ça c'est parce que eux, voilà, regarde ce qu'ils font, etc., et le côté un peu suspicious. De dire, ouais, mais c'est pas comme ça chez nous, et tu sais pertinemment que c'est pas comme ça chez nous, et de se replier un peu sur le côté, notre communauté, voire, intrinsèquement après, selon le pays d'où tu viens, j'aime pas utiliser le terme ethnie, mais bon, voilà, pour parler de ta communauté à l'intérieur de ton pays, qui dit que nous, c'est pas comme ça qu'on fait, en fait. Ça, ce sont les autres qui font comme ça. Pourquoi est-ce que tu veux pas fonctionner comme nous? Et du coup, il y a aussi l'idée de sortir du groupe. Il y a l'idée que, oui, mais en fait, faire des enfants, c'est aussi faire des enfants à l'intérieur de la communauté pas. Mais là, on voit aussi que ça tire le fil du partenaire. Comment est-ce qu'on choisit son partenaire, etc. Et toutes les injonctions qu'il peut y avoir aussi dans certaines communautés, de dire, bah non, en fait, nous, on est de telle communauté, tu dois te marier avec une personne de la même communauté. Parce que, voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne, en fait. Dans les sociétés traditionnelles, il n'y a pas la dimension du questionnement, du choix, etc., de se dire... ben non, en fait, si je veux pas, je vais aller me... Voilà, si je veux me marier avec un blanc, je me marie avec un blanc. Ben non, en fait. T'es censé te marier avec une personne, une telle communauté, éventuellement, qui soit de la diaspora, mais qui connaissent quand même les valeurs et coutumes, c'est les traditions. Donc, il y a tout ce tiraillement, j'ai l'impression. Donc, quel conseil est-ce que je pourrais donner? Je dirais que c'est vraiment quelque chose qui est très intime. Donc déjà, je pense que dès lors où on travaille cette idée-là, en général, c'est pas... Le non-désir de maternité, c'est pas quelque chose qui apparaît comme du jour au lendemain. Bon, voilà, je voulais des enfants, finalement, j'en veux plus. Bon, ça peut arriver aussi. Mais en général, c'est lié aussi à l'histoire de la personne, de qu'est-ce qui s'est passé auparavant, comment est-ce que j'ai grandi, comment je me suis construit ou construite en tant que personne, et qui fait que, arrivé à un moment de ma vie, je me suis dit que voilà, en fait, moi, par rapport à mon fonctionnement, ce n'est pas ce que je souhaite. Et je pensais justement, quand tu disais ça, au mouvement child free, donc les personnes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants, et je me disais, quid des mouvements child free dans les environnements noirs? Je me questionnais sur ça parce que je lisais même un article il y a pas très longtemps sur tous ces sujets-là, qui était très intéressant, mais c'était un article qui avait été écrit par une féministe blanche. Et sachant que même dans le féminisme blanc, c'est considéré comme quand même assez radical.
C'est ça.
De dire, non mais ne pas avoir d'enfant, voilà, c'est radical. Donc là, c'est réservé à une partie, un pourcentage précis dans le féminisme. Et ce sont des questions qui ne sont pas nécessairement abordées. Les questions de maternité, etc., c'est toujours... On peut parler, par exemple, de la sexualité.
C'est ça.
On peut commencer à aborder de plus en plus ces questions liées au genre. mais de parler de la reproduction en tant que telle, de dire les enfants, pas d'enfants, l'écologie, le féminisme, etc., c'est quand même un sacré combo, j'ai l'impression.
C'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que on est vu comme des ovnis et un peu partout, hein, et je l'expliquais, c'est que déjà au sein de des communautés, enfin de la majorité, c'est un sujet qui est tabou. Et je pense que quand tu rentres dans nos communautés à nous, c'est encore plus tabou. Enfin, donc tout à l'heure, je disais, on te prend pour une blanche, mais même au sein des communautés dites blanches, c'est un sujet qui est mal perçu, en fait. Et encore une fois, comme tu disais, la reproduction, bah, ouais, c'est un thème qui est encore, à part le droit à l'avortement. Enfin, il n'y a pas cette notion de volonté, en fait. Même si tu peux faire, tu peux avorter parce que tu ne veux pas, du coup, avoir l'enfant, mais il n'y a pas cette réflexion. J'ai l'impression que c'est plus une réaction, en fait. Et que cette notion de, voilà, je suis adolescente, je vais réfléchir à vraiment si je veux un enfant, bah, c'est quelque chose qui n'est pas du tout présent. Enfin, même ici en France, hein. Et du coup, ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là en train de discuter de ces sujets. Mais peut-être pour du coup revenir à la question de d'où viendrait ce désir de maternité, on pourrait peut-être parler du rapport mère-fille. Est-ce que ce rapport mère-fille, selon qu'il soit positif ou négatif, peut avoir une influence sur son choix justement? En termes de « je veux pas reproduire le même schéma » ou au contraire « je veux le reproduire parce que avec ma mère c'était génial et j'ai envie de reproduire la même chose ». Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait justement lier ?
Alors là, j'ai plein de choses en tête parce que tu as dit plein de choses très intéressantes. Alors du coup, j'essaye de voir comment j'emboîte mes pensées. Parce que c'est vrai que tu as parlé aussi des adolescentes et adolescents.
Oui.
Et que du coup, je voulais juste faire un tout petit pont par rapport à ça pour parler ensuite du rapport mère-fille.
Ouais.
J'ai l'impression qu'on passe d'adolescent à adolescente, où du coup, on a tendance à retirer la question de la sexualisation pour les adolescents, où c'est vu comme quelque chose, de problématique.
Oui.
Oui, il y a des adolescents qui tombent enceintes, de jeunes mamans, etc. Ouais. Et c'est vu comme quelque chose de très problématique dont il ne faut pas trop parler.
C'est ça.
En particulier dans les communautés un peu afrodescendantes, tout ça, où être jeune mère, c'est pas évident.
Ouais.
Mais encore une fois, je parle plutôt pour les personnes qui se trouvent en France métropolitaine, etc., qu'en habitant sur le continent ou encore ailleurs, parce que ce sont encore d'autres problématiques. Oui. Donc c'est toujours on essaie de jongler pour pas trop généraliser, pas trop essentialiser, pour voir un peu d'où on parle, pardon. Et du coup, je faisais le lien entre tu es adolescente, on n'en parle pas.
Ouais.
Et après, boum, on passe de adolescente à arriver à un âge ou date de péremption.
Oui.
Donc, peut-être 15 ans, ça n'existe pas. Mmh. La sexualité n'existe
c'est
pas.
Ça.
C'est mal.
Ouais.
À arriver à 30 ans, faut faire des bébés, en fait.
Exactement.
Faut faire des bébés parce qu'après, tu seras périmée. Ouais. Et du coup, mais qu'est-ce qui se passe,
pendant
ces 15 années, comment est-ce qu'on vit les choses? Comment on se découvre? Parce que la maternité, le désir d'enfant, etc., c'est aussi le rapport au corps.
Oui.
Comment on se sent à l'intérieur de son corps. Et nous, comme on a une audience aussi où on parle aussi, entre autres, aux femmes noires, comment on se sent dans son corps de femme noire, comment est-ce qu'on a vécu les choses.
Ouais.
Et c'est pour ça qu'après, je fais le lien de ça au rapport mère-fille aussi.
Oui.
Donc, au début, on est l'enfant de son parent, de ses parents, de la famille plus large, de la communauté. Et là, après, on parle de désir d'enfant.
Ouais.
D'un coup, qu'est-ce qu'on désire, comment on désire, comment on se voit aussi comme enfant de ses parents, qu'est-ce qu'on projette par rapport à tout ça, et après directement on passe de là au faire famille.
Ouais.
Mais on passe pas nécessairement par la transition aussi, on essaie de se questionner sur déjà comment est-ce qu'on fait couple.
Oui, déjà.
Déjà, est-ce qu'on a l'enfant en couple ou pas? Qu'est-ce qu'on projette par rapport à tout ça sur le rapport mère-enfant? Parce qu'on peut se dire, par exemple, sur le non-désir d'enfant, il y a beaucoup de choses qui sont très pathologisées.
Oui.
C'est problématique. Non, en fait, si tu veux pas avoir d'enfant, c'est parce que c'est une évidence. Tu as eu un parcours de vie compliqué, tu t'entends pas avec ta mère. Donc, c'est pour ça que tu ne veux pas être comme elle, donc tu ne veux pas avoir d'enfant. C'est possible que pour certaines personnes, ce soit le cas. Mais on ne peut pas généraliser et dire que Voilà, bah c'est une évidence. Non, peut-être qu'il y a des petites filles, des petits garçons, etc., qui depuis l'enfance ne souhaitaient pas avoir d'enfants parce que ça ne leur parle pas quelque part. Et ça, j'ai l'impression que ce n'est pas entendable.
Non.
Ce n'est pas entendable de dire et si j'en veux pas en fait. Pourquoi ce serait un problème de ne pas en vouloir? Pourquoi est-ce que c'est réellement biologique de vouloir des enfants? C'est pas parce qu'on peut avoir des enfants
qu'on veut
avoir des enfants. Et puis quid de l'infertilité aussi. Ou du coup, il y a une espèce de mélange dedans à dire bah oui, mais si t'es fertile, tu as de la chance.
C'est ça.
Donc tu dois faire des bébés.
Exactement.
Pour les infertiles.
C'est du gâchis.
Voilà, donc en fait, tu fais des bébés pour les personnes infertiles?
C'est ça.
Est-ce que c'est ça?
Mais c'est vrai que cette notion de, je sais pas, je suis pas du tout dans la psycho, mais cette notion de volonté, je pense qu'elle est très, je pense que c'est là, en fait, le point sur lequel il faudrait s'attarder, hein, parce que c'est, on est beaucoup, comme tu disais, fonction reproductive, donc là, c'est très scientifique, et quand il faut réfléchir à ce que la personne veut réellement, bah, j'ai l'impression que comme tu parlais de notion de groupe, c'est vraiment le groupe qui prend le dessus, en fait, qui va décider pour toi de ce que toi tu dois vouloir, en fait. Et c'est vrai que c'est peut-être difficile pour nous, du coup, en tant qu'enfants d'immigrés, de se dire, c'est pas concevable parce qu'on m'a toujours dit que je ferais ça et c'est ça que je voudrais, en fait. Donc, comment t'extirper de ce schéma? Tu vois, c'est, et là, en parlant, je me dis, en fait, c'est pour ça que c'est si difficile et douloureux de l'accepter, en fait. De sortir de cette case, de cette volonté, de cette projection. Parce que je crois que tu voulais parler aussi de projection aussi que les parents peuvent avoir quand ils quand ils font famille en final. Du coup, est-ce que tu voudrais faire ce parallèle entre, enfin s'il existe, peut-être que je divague et que je suis en train de...
go for it.
Mais du coup, est-ce que tu penses qu'effectivement la projection est très présente dans les cultures afro, enfin c'est peut-être très, j'essentialise peut-être beaucoup et tu me coupes si c'est le cas, mais du coup vu que la notion de transmission elle est très présente et des fois je pense qu'il y a un amalgame entre désert de maternité et désert de transmission. Et il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à être maman parce qu'elles voulaient transmettre, tu vois. Et moi, je suis plutôt de l'école. Je me dis, je peux transmettre à mes neveux, je peux transmettre à mes cousins, je peux transmettre à d'autres enfants que peut-être je ne connais pas, mais à travers un projet. Enfin, et du coup, comment t'expliquerais du coup un tel amalgame entre désert de transmission et désert de maternité dans nos sociétés afrodescendantes?
Je trouve que c'est très beau en fait que tu amènes l'idée de transmission. Que tu la poses sur la table. Je trouve que c'est très beau et c'est très intéressant. Parce que comme tu le dis, en fait, tu réponds aussi déjà en partie à la question en disant mais en fait, moi, je peux transmettre aussi à mes neveux, à mes nièces, et puis peut-être aussi aux enfants d'amis et à plein de personnes, en fait. On peut aussi imaginer que tu pourrais être, tu vois, le côté très américain de role model, tu vois, de dire, par rapport à tout ce que tu as appris, tous tes apprentissages, ce que tu souhaiterais transmettre, comment est-ce que tu souhaiterais le transmettre? Le transmettre, c'est pas nécessairement transmettre, entre guillemets, la chair de sa chair, avec les mêmes cellules et tout, parce que voilà, y a, tu vois, c'est très binaire, en fait. C'est très binaire et linéaire de dire, je suis une femme, je dois me mettre avec un homme, et pour faire un enfant, à qui je vais transmettre mon ADN.
C'est ça.
Mais déjà, qu'est-ce que l'ADN? L'ADN, c'est quoi, en fait? La génétique, qu'est-ce que c'est tout ça, en fait? Comment est-ce qu'on se questionne par rapport à tout ça? Et la transmission, qu'est-ce qu'on transmet, en fait? Qu'est-ce qu'on transmet de son vécu? Est-ce que c'est pour transmettre les valeurs familiales? Mais même les valeurs familiales, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, quand tu amènes l'idée de migration, d'immigration, il y a ça aussi. Tu vois, d'avoir des parents qui ont voyagé, navigué. Moi, j'aime bien le terme de naviguer parce que pour moi, c'est vraiment naviguer entre les espaces. Selon à quelle période tes parents ou la génération précédente est arrivée en France, de quelle manière, quel niveau socio-économique, quel emploi, tout ça. Enfin, tu vois, c'est tout ça en fait. C'est tout ça qui se mélange et qui font que les parents ils sont ici. Il y a certains parents qui ont toujours eu en tête l'idée de rentrer au pays aussi. Là aussi il y a un grand tiraillement entre les parents qui sont ici mais à moitié ici, à moitié là-bas, ceux qui sont rentrés, ceux qui ne sont pas rentrés. Et qu'est-ce qu'on fait de cette descendance? Parce que la descendance c'est d'abord nous.
C'est ça.
ah, alors nous on est là, qu'est-ce qu'on fait? Et nous-mêmes, où est-ce, comment on se place? Est-ce qu'on se sent plutôt ici? Est-ce qu'on se sent là-bas? Par exemple, il y a des pays qui sont plus ou moins accessibles, entre guillemets, tu vois. Par exemple, je pense, donc moi je suis tchadienne, mais je pense au Sénégal, où c'est plus facile d'aller au Sénégal qu'au Tchad.
Oui,
c'est il faut le dire, rien que le prix des billets d'avion, c'est plus facile. Donc j'ai beaucoup d'amis sénégalais qui allaient régulièrement au Sénégal tous les ans ou tous les deux ans. Pour le Tchad, bon, nous, on a eu la guerre civile, les guerres civiles, beaucoup de choses très difficiles et des billets d'avion à 1 000 euros.
Donc on réfléchit à deux fois.
Voilà. Donc on n'a pas la même vision des choses. Et puis il y a aussi la question de la diaspora. De, par exemple, je reprends l'exemple Sénégal-Tchad parce que moi, en plus, j'habitais aussi au Sénégal. Alors du coup, ça me permet de comparer plus facilement. La diaspora sénégalaise est très présente en France. Mais parce que c'est pas la même histoire, c'est encore autre chose.
Exact.
La diaspora tchadienne, bon, quand je rencontre des tchadiens et des tchadiennes, je leur fais coucou au passage. Je suis toujours trop contente, quoi. Je dis à mes amis, mais moi, j'ai rencontré, j'ai une nouvelle copine tchadienne, je suis trop contente, en fait. Et les gens, parfois, ne comprennent pas. Mais habituellement, les tchadiens et les tchadiennes que je connais, c'est ma famille. Ou c'est des cousins, cousines plus ou moins proches. Et du coup, c'est pas pareil de rencontrer d'autres tchadiens. Donc, tu vois, enfin. Je pense que quand on parle de descendance et de transmission, on a tout ça qui se mêle avec les parents d'un ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on transmet quand on a grandi ici? Qu'est-ce qu'on connaît des codes de là-bas, etc. Quand je pense en particulier quand on a les deux parents issus de l'immigration, est-ce que c'est du même pays ou pas? Est-ce que c'est des mêmes communautés ou pas? Parce que c'est sûr que si t'as un parent Wolof et un parent Soninké, bon, c'est pas pareil,
Exactement.
C'est pas pareil, tu vois. Qu'est-ce qu'on transmet? On fait sa sauce un peu avec tout ça. Bon, c'est pas évident. Et du coup, nous, après, seconde génération, troisième, quatrième, cinquième, ça dépend, tu vois. Qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants de notre africanité, de ce que nous, on a compris aussi? Parce que dans la migration, il y a des choses qui se perdent aussi.
C'est
vraiment, tu sais, c'est le côté un peu, j'aime bien, j'aime pas spécialement le film, mais j'aime le titre Lost in Translation. Tu vois, c'est vraiment l'idée de d'être perdu dans la traduction et entre
que
tout
je garde,
ça.
Voilà,
donc pour moi, il y a cette question-là aussi qui est intéressante dans le désir de maternité et de transmission et de descendance. Qu'est-ce qu'on appelle descendance? C'est nécessairement nos enfants? Ce sont nécessairement nos enfants? Alors qu'en plus, nos parents au pays, on sait qu'il y a, enfin, dans beaucoup de communautés, il y a le côté où, par exemple, donc moi je suis Sarah, chez les Sarah du Tchad, les enfants des frères et sœurs de mon père, ce sont mes frères et mes sœurs. Mes frères et mes sœurs. Ce ne sont pas uniquement, c'est pas mes cousins germains, enfin, bonjour cousin germain, cousine germaine, vous êtes un peu, non, c'est pas comme ça. Et les frères et sœurs de mon père, je peux les appeler aussi normalement maman, papa, etc. Moi, j'ai pas grandi là-bas, donc pour moi, c'est encore autre chose. Je navigue un peu entre tout ça, mais c'est intéressant, je pense.
Mais du coup, c'est là, je rebondis justement sur cette notion de famille élargie au final. Et souvent, c'est vrai que quand on me dit, bah oui, mais faut t'aider tes enfants à toi pour vraiment avoir une famille. Je suis là, mais en fait. Des fois, vous êtes là à me dire, il faut tout un village pour éduquer et élever un enfant. Et après, quand je reprends cette phrase pour justifier ma position, vous me dites, non, mais non, il faut ça plus. Donc, il te faut ta famille à toi, plus, en plus, ta famille élargie pour laquelle tu seras présente. Et aussi, quand tu parlais de descendance, et de migration, enfin de navigation.
Non, les deux, mais...
Il y avait aussi pour moi cette notion de... Bah en fait, ils ont été quand même déracinés, même si c'est pas la même chose que l'esclavage, par exemple. Où là, voilà, c'est autre chose, mais il y a aussi cette notion de déracinement. Et peut-être il y a cette volonté justement de se dire, bah j'ai été déracinée, bah je vais planter ici une plante. Et puis voilà, je vais faire famille, parce que c'est la manière pour moi d'exister. Et de montrer que j'existe encore, enfin que même si je suis plus dans mon pays d'origine, bah je suis en train de créer quelque chose ailleurs. Peut-être que c'est aussi un truc qui est présent, notamment chez nos parents, hein, qui nous foutent la pression, parce qu'ils ont eu eux-mêmes cette pression en fait à vouloir créer quelque chose ici en fait. Je sais pas si c'est un truc qui te parle.
Si, ça me parle à fond. Mais moi, je pensais à deux choses. Du coup, je me suis dit, en fait, on a une conversation qui est tellement riche et intéressante que du coup, parfois, je prends des petites notes parce que je me dis, non, mais attends, il faut que je dise ça aussi parce que c'est trop important. Donc déjà, quand tu dis ça, à un moment, je me suis dit, où sont les hommes? Mais vous êtes où, en fait?
C'est ça.
Non, parce que nous, on a toutes ces injonctions-là sur nos corps, en fait, où il y a cette association aussi entre maternité et féminin. c'est censé aller ensemble, quoi.
Oui.
Tu es femme, femme, féminin, maternité, c'est voilà, c'est ça le combo ensemble. Et tu te débrouilles avec ouais. ça. Ton utérus, c'est bon, c'est ton utérus, mais c'est quand même
c'est un four voilà. que j'ai comment, je sais pas comment dire oui. ça, mais tu peux faire
c'est
ton
pas
pain,
joli, comme ça.
C'est pas joli, mais franchement, c'est un poussin.
Ouais. ouais, voilà. Et puis c'est pas toi qui va planter la graine, c'est oui. la famille qui a décidé que fallait que tu plantes une graine et toi tu t'es débrouillé avec ça.
Ouais.
Mais du coup, donc je fais le lien entre ça où eux, on questionne, enfin eux, hommes au sens large,
ouais.
On questionne beaucoup moins ce côté-là.
C'est vrai.
Pour les hommes cis hétéros, j'ai envie de dire quand même, on leur fiche un peu plus la paix qu'à nous.
Ah oui oui.
Voilà, les hommes ouais. africains, on dit bon, enfin on voit bien quand on a, si on a des frères et sœurs, des cousins cousines, que bon, peut-être que de temps en temps, la mère souvent de ce que j'ai ouais. vu va peut-être faire une petite réflexion. Oui, ce serait bien quand même que tu te maries, etc. Mais c'est pas du tout ouais. du même niveau que les filles non. où ça commence bien plus tôt et en plus on les questionne pas sur le côté horloge biologique.
Ah non.
Et après on va nous dire bah oui mais c'est normal quand même, c'est pas pareil. Oui mais bon moi ça me je fais juste un lien rapide parce que moi je voulais dire un autre truc sur comment fait-on famille. Est-ce qu'il faut voilà être dans un couple hétéro ou en couple nécessairement pour faire famille?
Oui.
Alors là, t'arrives avec tes gros sabots dans ta famille noire africaine. J'ai décidé de faire un bébé toute seule.
Blam.
Bam. Waouh. En plus, une bonne fête de famille,
c'est
tout le monde
ça,
réuni, bam. Voilà, tu sors ta meilleure tenue, ta 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 ta, un bel attaché de foulard sur ta tête, hop. Donc je pensais à ça. Et sur la question de déracinement, et du coup je me disais c'est vraiment l'ambivalence, tiraillement, donc famille élargie, oui mais il faut que tu aies ta famille, déracinement, enracinement, et l'idée de planter une graine sur le territoire pour dire oui mais voilà, toi t'as les papiers, il y a ça aussi derrière quoi.
Ouais, ouais.
Toi tu as les papiers, tu appartiens ici aussi. Oui mais nous, comment est-ce qu'on se sent par rapport à ça?
Exact.
Comment est-ce qu'on se sent? Est-ce qu'on se sent à appartenir à un ici France par ouais. exemple? Mais c'est valable pour les autres pays aussi. Mais voilà, quand on est français d'origine, enfin rien que toutes ces expressions là. Ouais. Dire oui, mais voilà. Donc maintenant, moi, on me dit de planter une graine ici. Mais vous, les parents là, c'est vous qui avez décidé de
c'est
venir.
Ça.
Mais moi, j'ai pas
choisi.
J'ai pas choisi ça. Et qu'est-ce que moi je choisis maintenant?
Exact.
Comme on est dans une dimension de société plus moderne, contemporaine, qu'est-ce que moi je choisis?
Ouais.
Et finalement, le côté ancestral où faut pas oublier aussi que c'était, enfin, sur la génération précédente parfois, voire c'est encore le cas maintenant dans certaines communautés dans le monde, d'avoir les parents qui choisissent.
Oui.
Avec qui est-ce que tu vas te marier?
Ah oui, ouais. C'est vrai que c'est un autre. On pourrait faire un autre podcast.
Oh là là,
sur...
on a trop de choses à raconter.
Mais c'est vrai que ouais, cette notion de faire famille. Je pense que chez nous c'est très important et les enjeux sont beaucoup plus parce que moi j'ai eu beaucoup de questions du genre mais pourquoi tu te focalises que sur les femmes noires par exemple. J'expliquais que je pense qu'une femme noire ou une femme blanche n'a pas du tout les mêmes enjeux quand elle décide de faire famille en fait tout simplement déjà vu le contexte. Surtout là aujourd'hui avec ce qui se passe, violence policière, etc. Faire famille, c'est une décision qui est voilà, qui est lourde de conséquences. Et du coup, on peut être amené à réfléchir à deux fois qu'une personne blanche qui du coup a juste entre guillemets à penser à élever ses enfants dans de meilleures conditions. C'est pas du tout les mêmes enjeux, en fait. Donc, je peux comprendre qu'une personne noire se dise, attends, deux secondes. On regarde où est-ce qu'on vit, là, et puis on se dit, est-ce que vraiment je veux faire famille ici? Est-ce que c'est un projet qui va avec ce que je suis aujourd'hui? Ou ce qu'on m'a demandé d'être aujourd'hui? Enfin, voilà, c'est plein de questions comme ça qui fusionnent dans ma tête. Je suis désolée, je dis vague, mais...
Mais pas du tout, on est dedans. Et justement, tu vois, on déroule le fil. Ce que je dis beaucoup avec les personnes que j'accompagne, c'est que voilà, parfois, on part d'un endroit, et puis finalement, tu vois, c'est comme un chapeau, on tire des trucs comme ça, ou parfois, on commence à tirer un fil, on se rend compte que il y en a encore d'autres et tout. Et c'est toute cette pluricité qui est, toute cette multiplicité aussi, qui est vraiment intéressante. C'est que, tu vois, sur la question des violences policières, des oppressions systémiques, etc. Je pense que c'est quelque chose dont il faut qu'on parle. Dont il faut qu'on parle, pardon. C'est vraiment important parce que, tu vois, tout à l'heure, je parlais aussi de nos corps racisés.
Oui.
Bah oui, mais bon, voilà. On voit qu'il y a énormément de violences policières en France. Donc, moi, en tant que femme noire, avec mon corps racisé, d'accueillir un enfant racisé qui va se retrouver dans cette société-là, comment je me sens par rapport à ça, de mon vécu, de tout ça.
Ouais.
Et du fait que quand on parle d'oppression systémique, faut peut-être qu'on en parle un petit peu plus. On parle d'oppression systémique, de racisme, de tout ce domaine-là. Il y a quelque chose de structurel.
Oui.
Qui dit structure, qui dit système, dit société, dit voilà, notre société, comment est-ce qu'elle s'est construite? Pourquoi est-ce que la France actuellement est considérée comme une des grandes puissances du monde, etc. Mais moi, j'ai mis un tout petit pays comme ça.
Comment ça se fait?
Mais oui. Et je regarde le Tchad qui est immense. Le Tchad, c'est quoi? C'est peut-être deux fois et demi la France.
Ah ouais.
Bon, le Nord est désertique. Ok. Mais je me dis un tout petit pays comme la France, comme ça, qui a colonisé la moitié du monde. Et c'est quelque chose que nos parents n'ont pas nécessairement pensé et vu de la même manière. Parce que quand tu immigres dans un autre pays, il y avait aussi le fait que, selon quand est-ce qu'ils sont nés, moi, mon père, quand il est né, il va dire, mais attends, t'as beaucoup parlé de moi. Coucou papa. Et ben, le Tchad, c'était encore tchadien.
Oui.
Et après, c'était plus tchadien.
Ouais.
Donc ça veut dire qu'ils sont, enfin, toute cette génération-là, ils sont nés en Afrique, dans des endroits d'Afrique où c'était encore la France. Et après, c'est repassé tchadien. Enfin, tu vois, il y a une espèce de, il y a quand même une grosse confusion, confusion des langues aussi quelque part par rapport à tout ça. Puis sans compter le paternalisme de la colonisation française, il y a tout ça, je pense en fait qui se mêle et qui a pas nécessairement été pensé par les générations précédentes, parce que c'était aussi des générations qui étaient dans la survie.
Exactement.
Et qui avaient pas les mêmes enjeux en fait.
Ah, bah, oui.
Quand tu arrives dans un pays, tu viens pas faire la révolution.
C'est ça.
Mais nous,
on est là.
Moi, je suis née ici. Donc donc je suis là quoi, j'ai envie de faire la révolution, je suis pas d'accord en fait. Tous ces impensés, des choses comme le fait que le racisme glisse, etc. Mais moi ça glisse pas, ça ne glisse pas, ça accroche. Ça accroche. Quand on me dit des choses désagréables, mais pas juste désagréables et racistes, ça ne glisse pas. Déjà quand c'est désagréable, j'aime pas trop. Mais quand c'est raciste... qu'on me dit sale négresse ou des choses comme ça, des choses très violentes comme ça... Je peux pas, ça peut pas glisser en fait.
Non.
Ça reste, ça laisse des stigmates. C'est comme si ça me laissait des micro-coupures, des cicatrices sur mon corps de personne racisée. Et qu'est-ce que je fais de tout ça après? Leur génération, ils en ont eu des stigmates, ils en ont eu d'autres, ils ont eu les mêmes, ils ont eu encore autre chose. Ouais. Mais c'est resté des impensés. Et c'est là où je me dis, bonjour transgénérationnel. Vous avez eu ça, c'est resté dans des non-dits, des impensés. Ouais. Nous, on a porté une partie de votre histoire, plus on porte nos histoires aussi. Mais nous, on décide de mettre ça sur la table.
Exact.
Tu vois, par exemple, quand on a créé notre collectif de psy noirs, on a posé ça sur la table, on a dit, bah voilà, la santé mentale. D'accord. Mais la santé mentale des personnes noires, des personnes racisées, pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi est-ce que la psychologie, souvent, c'est dépolitisé, c'est aseptisé même? C'est aseptisé. On fait comme si, non mais c'est pas une question de couleur, le psychisme.
On est tous des êtres humains.
L'universalisme. Coucou universalisme. On adore. On adore. Coucou universalisme. Bah non. Bah non. Nous, on n'est pas d'accord. En fait, on a besoin d'en parler. Moi, comme je te le disais l'autre jour et tout, j'accompagne énormément de femmes noires. J'aime bien utiliser le terme accompagner pour les personnes que je suis, qui me suivent. Enfin, je sais pas trop dans quel sens on dit. Mais pour moi, c'est hyper important, en fait. C'est hyper important de poser les choses sur la table.
Ouais.
Moi, les personnes viennent me voir en me disant « Ah, mais je suis trop contente d'avoir trouvé une psy noire. C'est comme si c'était un truc. Voilà, mais comme s'il n'y en avait pas. Mais si, en fait, il y en a. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a quand même un peu. Après, c'est pas parce qu'on est noir qu'on est nécessairement antiraciste, qu'on est nécessairement antiraciste, intersectionnel, antisexisme, etc. Mais bon, tu vois, juste de venir comme ça, pour moi, c'est toujours très touchant, tu vois, d'avoir des personnes qui me regardent et qui se disent ah bah voilà, je vais pouvoir parler de mes trucs du bled, parce que je pense que vous comprenez, quoi. En plus, j'adore parler en images, dire des trucs et tout.
Et tout de suite...
Y a un truc parfois qui se passe où, voilà quoi, je sais que les personnes me regardent en disant « Non, mais vous savez ce que je veux dire, quoi. » Je dis « Oui, je sais. » Je sais.
Et là, merci.
je sais de quoi est-ce qu'on est en train de parler. De dire « Bah oui, bah, le racisme, c'est dur, en fait. » C'est dur et il faut qu'on en parle, en fait. C'est pas de dire, c'est pas de faire l'économie de ça.
C'est ça.
De faire comme si le racisme, c'était une sphère à part. J'ai subi du racisme au travail. je mets ça sur le côté et je fais comme si tout allait bien pour
Exactement.
Le reste. Alors que, oui, mais j'ai subi du racisme au travail, peut-être que j'ai subi du racisme, je sais pas, de la part de ma famille ou de mon conjoint, de la part d'amis, etc. Comment on se sent par rapport à ça? Tu vois, quand on a des amis racistes, comment est-ce qu'on gère ça, tu vois? Ça, ce sont de grandes questions aussi. Donc moi aussi j'ai digressé un peu le coup.
Ah, mais c'est super intéressant. Non, non, vraiment.
Mais pour moi, tout est emboîté, en fait.
Oui.
Je répète tout le temps, mais tout est systémique, en fait. S'il y a un des systèmes dans lequel c'est compliqué. Si par exemple c'est compliqué au travail, on peut pas se dire, bon, bah voilà, c'est le bazar au travail, je suis en plein burn-out, c'est uniquement le travail.
Il y a obligatoirement quelque chose.
Ah bah il y a des effets sur le reste. C'est impossible d'être en plein burn-out au travail. Mais par contre, pour le reste, ça va au top du top. Je rentre chez moi.
Et là,
limite, je me sens plus en burn-out. Je me sens super bien, tout va bien. Dans la famille, tout va bien avec la personne que je fréquente aussi.
C'est comment dire. En fait, tout ce que tu dis est tellement vrai que, en fait, je suis juste là, tu vois, à checker des box en me disant, bah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. D'où l'importance de consulter quand on le peut une personne racisée, voire noire. Et c'est vraiment top ce que vous faites avec le collectif Psy Noir. Je tenais à le dire.
Merci. Comme ça, elle m'entend aussi. Coucou.
Du coup, je sais plus où est-ce qu'on en était. Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas abordés?
Je vais peut-être repartir un peu sur le côté binaire.
Oui.
Pour tout ce qui est maternité et féminin. Avec toutes les injonctions sociétales, donc je pense qu'on l'a un peu effleuré, si je ne m'abuse. Mais oui, ce côté très binaire, très noir et blanc, c'est drôle de dire à ce moment-là, du coup, juste après ça. Mais voilà, le côté... Et puis le fait que, du coup, on peut se retrouver dans une sorte d'ambivalence par rapport à ça. Parce que le non-désir, ça peut être aussi un non-désir de maternité qui soit politique.
Oui.
De dire non, mais en fait, c'est mon utérus, je choisis d'en faire ce que je veux.
Exact.
Et non, j'ai pas à abriter la future vie d'une autre personne parce que la société m'a demandé de le faire.
Ouais.
Tu vois, c'est intéressant parce que moi, je m'intéresse aussi beaucoup à tout ce qui est spiritualité. Et souvent, quand on parle de féminin sacré, etc., ça reste quand même très hétéro.
Oui.
Ça reste très femme cisgenre.
Ouais.
Ça reste très souvent assez blanc aussi. Ouais. Enfin, dans les univers francophones, c'est pas évident en fait d'avoir des personnes racisées qui reprennent un peu ces questions-là pour voir comment est-ce que c'est pensé.
Ouais.
Est-ce qu'on peut entre guillemets guérir son féminin sacré et ne pas vouloir d'enfants? J'ai l'impression que c'est des choses. Tu sais, ça fait partie des petits impensés encore. Comment on appelle ça, la zone aveugle un peu.
Oui.
On parle de on va parler du yoni, de l'utérus, de potentiellement avoir des enfants. Oui, mais il y a aussi la potentialité qu'on n'en veuille pas.
Exact.
Tu vois, donc je sais pas si c'est quelque chose auquel tu avais pensé aussi.
C'est super intéressant parce que du coup on se bride en fait et c'est un sujet qui du coup n'est jamais abordé. Et d'ailleurs en parlant de féminin sacré, bah ces derniers temps, tu vois, il y a pas mal de personnes racisées qui, justement, sur les réseaux sociaux, commencent à en parler en se disant, bah, faut se réapproprier le truc quand même, parce que il y a beaucoup de choses qui viennent aussi de nos cultures, hein, faut le dire, et pas forcément en Afrique, hein, mais en Amérique latine, tu as pas mal de choses aussi qui viennent de ces cultures-là, mais quand tu regardes ce monde du féminin sacré aujourd'hui, bah voilà, il est très très blanc et je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas abordées du fait qu'il y ait ce monopole en fait. Moi, je t'avoue que je suis pas très, j'ai pas énormément lu sur le sujet, voilà, je découvre, mais c'est vrai que c'est un point qu'il faut rappeler. Je pense. Et si les gens veulent aller plus loin, je vous invite vraiment à suivre ce type de. Alors en termes de doula, par exemple des doulas que je suis.
Peut-être que je pourrais réexpliquer ce qu'est une doula pour les personnes qui ne connaissent pas. Moi, je trouve ça super intéressant. Mais
alors la doula. Alors je reprends les termes de Dani qui est une doula que j'ai interviewée. C'est une accompagnatrice. Donc tout à l'heure tu parlais d'accompagnement. Donc c'est un peu une coach accompagnatrice pour les futurs parents. Donc elle parle pas que pour les mamans, hein, c'est vraiment accompagner le couple, qu'il soit hétéro ou pas, dans justement leur maternité. Donc par exemple, elle disait qu'elles sont pas médecins, donc elles n'ont pas du tout de compétences. Voilà, c'est pas des gynécos, ce ne sont pas des sages-femmes, mais du coup elles vont être là pour préparer mentalement la future maman à accueillir en fait une nouvelle personne sur Terre. Et je trouve aussi, quand on voit tout ce qui est violence obstétricale, que les doulas, elles devraient être là partout, parce que du coup, elles donnent une confiance en soi à la future maman, qui peut-être, y a des mamans qui ont vécu par exemple des césariennes ou bien des situations très compliquées, qui ont juste suivi parce que, bah attends, quand t'es en train d'accoucher, voilà, t'as plus de force, t'es à bout, psychologiquement c'est dur, et la confiance en soi, elle est en mode down, elle est plus là. Et du coup, la doula est là pour justement pousser la femme à aller plus loin et à se reconnecter avec elle-même et contrôler son corps. C'est comme ça que je définirais. Je sais pas si je définis bien la chose. Est-ce que tu veux apporter un autre élément par rapport au fait d'être une doula?
C'est pas mon métier. Alors. Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant ce que tu disais, parce que c'est vrai que j'avais entendu. Je sais plus comment est-ce que j'ai entendu parler des doulas.
Oui.
Mais j'avais dit ça à une amie qui s'était spécialisée en yoga. Attends, on dit périnatal ou prénatal?
Ah, périnatal, je crois. Je sais pas.
Tu me mets. Bah, périnatal, c'est-à-dire autour de la naissance. Ouais. Périnatal, c'est avant la naissance. Et bon, on s'est comprise, je pense. Et j'avais trouvé ça très intéressant. Et j'avais dit, ouais, moi, je te verrais trop comme doula pour accompagner les personnes. Oui. Parce que c'est une amie qui est. Bon, peut-être qu'elle m'écoutera, elle se reconnaîtra. C'est une amie qui est très douce. Et je la verrais bien accompagner de jeunes parents. Et je trouve ça super intéressant que tu dises que c'est pour accompagner le couple. C'est pas uniquement pour accompagner les mamans. Tu vois, de reparler, tu vois, ça permet aussi de travailler la question du désir d'enfant et du couple derrière, en fait. Ça, tu vois, l'idée, elle est partie de qui, en fait? On dit toujours, oui, bon, on a décidé, on.
C'est qui?
Mais où sont les jeux?
Ouais.
Où sont les jeux à l'intérieur du on? Ça peut être l'un, ça peut être l'un qui convainc l'autre. Enfin, il y a plein de choses, en fait. Il y a plein de cas très, très différents. Et je pensais à ça et je rebondissais aussi sur ce qu'on disait avant par rapport à la maternité. Et je m'étais dit, mais il faut que je dise ça. J'ai oublié de dire la société patriarcale, en fait.
Oui,
la société patriarcale, l'injonction à la maternité et le fait que le féminin passe par la maternité. Est-ce qu'on est femme quand on n'a pas d'enfant?
Exactement. Ouais. Ça, c'est la question. C'est la fameuse question. Est-ce que je suis moins femme parce que j'ai pas d'enfants qu'une amie à moi qui aurait des enfants. Ça, c'est vraiment la question, je pense. Et je pense que là, on est dans une autre vague où on, parce que on parle aussi de féminisme, et c'est aussi une question qui est abordée par les féministes. Est-ce que je suis une femme? Est-ce que je suis une mère? Il y a toutes ces questions aussi qui sont là. Et peut-être que la prochaine vague, entre guillemets, ce sera, c'est quoi être une femme, en fait, tout simplement. Est-ce que être une femme, c'est avoir des enfants? Est-ce que c'est pouvoir s'accomplir à travers son boulot? Ou c'est juste, je suis une femme, point. J'ai pas à avoir des casquettes par-ci et par-là. Donc ouais, je pense que c'est un super point. Et du coup, on n'a pas abordé justement ce qu'on parlait du fait que c'est le couple, la parentalité, et on a beaucoup parlé des couples homo, enfin cis, pardon, et on n'a pas parlé d'homoparentalité, et dans la question de faire famille, je pense que on parlait de déracinement, et je pense que dans nos communautés, quand on décide justement de se mettre en couple avec une personne du même genre que soi, déjà il y a un choc. On peut avoir les parents qui coupent les ponts avec vous. Et ça, je pense, c'est un truc très récurrent. Du coup, il y a un déracinement qui est là. Même s'il est pas géographique, il y a un déracinement avec sa famille. Et du coup, est-ce qu'il y a une autre pression par rapport à ça? De dire, bah voilà, j'ai plus de famille, entre guillemets. Du coup, il faut que je fasse famille parce que je suis tout seul, en fait. Je suis tout seul. Et du coup, faire famille, c'est limite un acte politique pour moi, et de montrer que voilà, je peux faire famille et je suis un être humain comme tout le monde, et du coup je dois prouver, entre guillemets, le fait que je peux devenir parent et avoir des enfants.
Alors là, c'est une question épineuse. Alors moi, Moi, je suis une femme cisgenre, hétéro. Mmh. Donc, je ne peux pas trop parler sur les questions d'homoparentalité. Parce que je peux accompagner des personnes qui travaillent ces questions-là et les travailler avec elles. Oui. Mais on part de leur vécu.
Exact.
On part de leur vécu pour penser ensemble et travailler ensemble sur ces questions-là. Donc, moi, c'est intéressant parce que quand tu as dit déracinement, moi, j'ai pas pensé nécessairement déracinement, mais j'ai pensé clivage. Mmh. Donc, clivage, c'est vraiment l'idée de coupure.
Oui. Oui.
J'ai pensé plutôt à ça, dans le sens où, évidemment, ça peut être vécu très violemment.
Oui.
Il y a quand même énormément de violence dans l'idée d'annoncer, de parler de ces questions-là, parce que déjà, intimement parlant, c'est pas évident dans des sociétés qui sont quand même à majorité, très grande majorité hétérosexuelle, de penser ces questions-là. Et puis, voilà, quand on parle d'homoparentalité, bon, c'est vrai qu'après, il y a tout le vécu aussi de la communauté LGBTQIA+. C'est pas uniquement, bon, je suis lesbienne ou pas lesbienne, je suis gay, je ne suis pas gay, etc. C'est beaucoup plus complexe que ça.
Oui, oui.
Il y a aussi les personnes trans, comment est-ce que c'est vécu, les questions liées aux transitions, etc. Et dans tout ça, comment on se sent à l'intérieur de son corps. Parce que pour accueillir, déjà, faut accueillir l'idée de la transformation du corps aussi.
Ouais, déjà.
Parce que quand on pense maternité, parfois on oublie ce côté-là aussi. C'est qu'il peut y avoir une forme aussi de dysmorphophobie. Le fait d'avoir des difficultés avec son propre corps.
Oui.
De se regarder dans la glace et de voir son corps se déformer. Donc dans nos sociétés, il y a toujours le petit côté, la maternité, c'est beau, c'est génial. Oui, mais bon, il y a autre chose aussi derrière.
C'est clair.
Il y a les vergetures, le corps qui change, l'élasticité, l'élasticité de la peau. Il y a l'élasticité de la peau qui diffère, en fait. On n'a pas toute la même élasticité de la peau. Il y a énormément de choses par rapport à tout ça. De devoir vivre avec une autre personne à l'intérieur de soi pendant 9 mois. Enfin, c'est quand même un truc de dingue. Il faut le dire, quoi. De devoir revoir toutes ses habitudes, les habitudes alimentaires. Et puis comment ce futur enfant, etc., impacte aussi sur le psychisme. Il y a tout ça qui est emboîté.
Ouais.
On dit aussi que, voilà, au niveau du psychisme et tout, c'est une période qui est très particulière. Où ça peut réveiller aussi d'anciennes angoisses profondes, comment on se sent, des peurs, etc. Il y a toutes les peurs aussi autour de l'accouchement.
Oui.
Où là, je fais le petit lien aussi avec tout à l'heure quand tu parlais de violence obstétricale. Ou quand même, on sait qu'au niveau des gynécologues et tout, c'est quand même un petit peu compliqué à ce niveau-là. Et puis, en tant que personne racisée, qu'est-ce qui est projeté sur nous, sur nos corps racisés, dans le milieu hospitalier, je pense au syndrome méditerranéen, je pense à plein de choses par rapport à ça qui font que... Bah, mais comment est-ce qu'on gère tout ça Tu vois, toute la continuité. Donc, il y a tout ça d'un côté, de modification du corps, de comment on se sent dans son corps, plus associé à ça, les questions propres et spécifiques aux communautés LGBT, QIA+, etc. Comment est-ce que c'est pensé aussi dans ces communautés, etc. De certaines injonctions aussi. Et puis, c'est vrai que voilà, tout le côté politique lié au corps et à la maternité.
Ouais.
Et ça, par contre, j'ai pas suffisamment d'éléments de réponse à apporter par rapport à ça, parce que je peux pas me permettre de trop dire je pense qu'il fonctionne de telle ou telle manière. Enfin, ce sera un peu déplacé de ma part, mais ce sera intéressant de penser ça avec des personnes.
Donc du coup, appel
appel à témoignage.
Non, mais blague à part, c'est vraiment un sujet qu'il faut aborder et voilà, pour la saison 2, si c'est un sujet qui vous parle et que vous voulez en parler, la porte est grande ouverte et je serai ravie de vous accueillir pour en parler. Y a-t-il d'autres points que tu souhaitais aborder?
Où est-ce qu'on avait parlé encore que j'avais peut-être ah pardon
non, moi,
je pensais aussi au bébé imaginaire.
Oui, bah tu vois je...
oh là là, on s'en est connectés, tu vois. Non, je pensais au bébé imaginaire, donc vraiment donc nous en tant que bébé et enfant imaginaire de nos parents, qu'est-ce qui a été pensé par nos parents? Je sais plus si ensemble on avait discuté des prénoms.
Ah non.
Bah, du coup, je pensais à ça, du fait que... du coup, je vais parler plus par rapport à l'Afrique, parce que c'est plus facile pour moi. Comment est-ce qu'on nomme l'enfant?
Oui.
Donc, le fait de parfois nommer l'enfant par rapport à une personne de la famille, pour avoir des... Avec qui est-ce que j'ai parlé
ah
de
mais
ça
si, si,
si, c'est avec toi qu'on a parlé de ça.
Je disais par rapport à mon petit frère, oui.
Pour
oui.
Pour les caractéristiques,
c'est ça, exactement.
Pour avoir les caractéristiques ouais. De la tante, grand-tante, ouais. D'un ami de la famille, c'est de ça. Nommer l'enfant par rapport à ça.
Oui, oui, oui.
Et ça, c'est intéressant, tu vois, quand on pense le bébé imaginaire, parce que ça, ça a été pensé beaucoup dans tout ce qui est univers psychanalytique, donc plutôt européen, occidental, de comment les parents pensent cet enfant à naître.
Oui.
Ce bébé à naître, ce bébé imaginaire, donc c'est un bébé qui est nécessairement parfait. Enfin, je pense pas qu'on va penser à un bébé qui ne le soit pas. Donc on pense à un bébé, voilà, qui a quelque chose de l'ordre de la magie, en fait, aussi, dans ce bébé imaginaire. Mm. C'est un bébé qui est... il est génial. Mm. Il est super beau.
Ouais.
il pleure pas. Parce que s'il pleure quand même... Bon, il peut pleurer un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Hein. On sort de la maternité, le bébé fait ses nuits. Enfin, il y a plein de choses qui sont projetées derrière sur le bébé puis l'enfant.
Ouais.
Ça va être un enfant qui va être ultra intelligent. Selon l'univers socio-économique, selon plein de choses. Voilà, l'enfant est là. On se dit déjà, l'enfant a 3 ans. Bon, il connaît son alphabet. Je pense qu'il va faire Mathup. Enfin, Mathup, non, plutôt c'est l'alphabet. Il va faire Sciences Po. Voilà, c'est un enfant très intelligent. Il va faire Sciences Po, puis l'ENA, en fait.
Ouais.
Voilà vers quoi va aller mon enfant. Et donc, après, on voit l'écart entre ce bébé, cet enfant imaginaire, rêvé, idéalisé, et l'enfant réel.
Ouais.
Et la coupure potentielle entre les deux.
Oui.
Et du coup, je refais le lien par rapport à la question des prénoms et comment on nomme l'enfant, parce qu'il y a tout ça aussi qui est emboîté à l'intérieur de comment, quand on reprend des noms de personnes ou les histoires de noms d'initiation, etc., selon les communautés, encore une fois. Donc, qu'est-ce qui se répète comme ça d'un enfant à l'autre de la famille, parce qu'on est l'enfant de la famille, on n'est pas uniquement l'enfant de ses parents dans nombre de communautés traditionnelles. Mais du coup, je trouvais ça intéressant de parler de ce bébé rêvé, idéalisé. Et donc, en général, cet enfant idéalisé est censé devenir un adulte vraiment génial, qui lui aussi aura des enfants derrière.
C'est ça.
Donc, quand l'enfant réel décide que non, en fait. Non, finalement, moi, j'ai décidé de ne pas avoir d'enfant. Le vécu derrière des parents, etc. Comment est-ce que ça peut être quelque part peut-être effractant aussi psychiquement? Quelque chose de... Mais tu ne peux pas nous faire ça, en fait. Nous, on a envie d'être grands-parents. Oui, mais l'enfant, c'est l'enfant de qui? C'est un enfant pour quelqu'un? Est-ce que c'est un enfant pour quelqu'un? L'objectification aussi, c'est l'enfant devient voilà, ça devient une sorte d'objet. Mais voilà, tu vois, après, nous, on le gardera, tout ça. Est-ce que c'est la question? Est-ce que je fais un enfant pour vous? Pourquoi? Pour qui? Comment? Avec qui?
Tu résumes super bien, en fait, tout ce qu'on a dit là, en fait. Enfin, c'est vraiment, c'est à un moment donné, on a cette notion de... c'est un bébé. Déjà, de dire bébé, tu vois, c'est un bébé, quoi. Voilà. Et on a prévu pour toi que tu allais avoir tel bébé. Et du coup, là, t'es en train de briser tous nos rêves, quoi. Et du coup, je trouve que c'est une très, très belle conclusion par rapport à peut-être la partie 1, parce que je pense qu'on a encore plein de trucs à dire. Et c'est triste qu'on... Et les auditeurs, je pense qu'ils sont... C'est beaucoup d'infos qu'on a mis, je pense qu'on a donné. Il va falloir ingurgiter tout ça. Donc peut-être une partie 2 pour en parler plus en détail sur d'autres sujets, d'autres aspects. Et avant de clôturer cet épisode, j'ai des petites questions pour toi, parce qu'on a beaucoup parlé de ta profession, t'as parlé en tant que professionnelle, mais tu restes aussi une femme, t'as tes trucs, t'as tes goûts, voilà. Du coup, première question, est-ce que tu as une chanteuse ou des chanteuses? Ça dépend si t'as la liste est longue. Afro-descendante que tu apprécies beaucoup, des badass singers.
Alors j'ai essayé de. Oui, il y en a plusieurs que j'apprécie. Là, j'ai pensé à Erykah Badu.
Nice.
Parce que j'aime bien son style, etc. En tant que personne, bon, parfois elle fait des choses un petit peu controversées et complexes, mais sa musique, je la trouve très intéressante. En fait, à la base, j'aurais bien voulu dire une artiste africaine. Du coup, ce sera African American. Mais je la trouve, ouais, je la trouve cool, quoi. Alors, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Ouais. Elle a un petit côté badass, quand même, je pense. Donc,
est-ce que t'as un titre, peut-être, qu'on peut passer rapidement
mince.
Sa tête.
Oh, mince.
Je sais que c'est dans l'album Bad Reason.
Alors, il y a
Ah, c'est Love of My Life, mon
Ah,
truc.
Love of My Life.
An ode to hip hop. Love of my life.
Bah voilà, tu vois, t'aurais pu le chanter.
Ouais, mais sur le coup, tu vois, j'étais tellement en train de naviguer dans toutes les choses super intéressantes qu'on était en train de dire que du coup... Aïe, 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 on va danser.
Ouais, elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal. Mais bon, on va devoir avancer. Mais elle était vraie, elle est vraiment top. C'est vrai que... Elle est pas mal. Du coup, deuxième question. Quelle est ton actrice afrodescendante, toujours, qui, pour toi, embrasse son choix de maternité, désir, non-désir, ou bien sa relation avec sa maman, avec classe, voilà.
Bah du coup peut-être qu'on peut parler un peu de Insecure. Comme c'est la série quand même du moment, c'est je clair. Pense en particulier dans les communautés africaines américaines oui. Et un peu je sais pas à quel point la communauté francophone regarde cette série là ou la connaissent ou la connaît je ne sais pas. Mais j'avais trouvé intéressant le personnage de Tiffany.
Oui.
Et son rapport à la maternité, le problème, c'est que j'essaie de spoiler un peu. Alors, si vous n'avez pas encore regardé Insecure saison 3, n'écoutez pas ce que je dis, mettez pause. Mais du coup, oui, Tiffany, son rapport à la maternité qui a l'air quand même d'être assez complexe, elle est présentée souvent comme une personne qui est relativement superficielle, qui vit dans son monde un peu avec son mari, etc.
Égocentrée
et le décalage... avec son groupe, avec son groupe de copines, quand elle est enceinte, etc. Il y avait un épisode, je crois que c'est dans la saison 2, le rapport à l'alcool, pendant la maternité, tout ce mélange, et puis, dans la dernière saison, du coup, le fait qu'elle, si je me trompe pas, il y a un épisode aussi où on voit qu'il y a le petit côté un peu avec le groupe, bien que le groupe tente à se disloquer de plus en plus, il y a eu un petit côté aussi sororité, où elles étaient là pour elle, où on voit qu'il y a sa grande copine Carly, qui est là aussi pour, qui est là en soutien, où en fait on voit pas nécessairement dans les épisodes qu'elle soit là tout le temps avec elle. Et en même temps, la manière dont c'est narré, en fait, on comprend que elle est quand même là régulièrement pour elle. Par exemple, aussi quand elle va à un festival et qu'il y a la babysitter qui appelle donc son mari, dont j'ai oublié le nom, parce que c'est pas un personnage très important. Alors, du coup, donc son mari qui est appelé par la babysitter pour dire ça va pas du tout, l'enfant ne fait que pleurer, etc. Et elle qui dit non, mais c'est mon temps en fait. Vas-y, ça ne m'intéresse pas.
Ouais.
Donc j'ai trouvé que c'était intéressant parce que quand tu me poses cette question-là, je cherche dans ma tête, je me dis bon, des personnages. Des femmes noires qui ont été enceintes dans des épisodes de séries ou de films desquels on a réellement vu tout le cheminement lié au désir d'enfant à la maternité, c'est pas évident du tout en fait finalement.
Il y en a pas des masses.
Il y en a pas des masses et puis il y a beaucoup de films et séries où sur les trucs très mainstream les rôles des femmes c'est souvent des rôles des femmes noires c'est souvent des rôles qui sont secondaires des rôles subalternes liés au ménage ou à des petites choses ou alors carrément les films sur l'esclavage ou alors des choses le fait que ce soit des femmes noires qui se soient fait violer etc. Et du coup je me suis dit oh non, j'ai pas envie de
rentrer dans ce truc là
j'ai pas envie de remettre ça sur la table mais le rôle de Tiffany c'est intéressant de dire on peut être une jeune maman ça peut être compliqué et c'est pas la question de j'aime ou je n'aime pas mon enfant.
Exactement.
C'est aussi moi quand j'ai vu ça je me suis dit y a-t-il eu un baby blues une dépression postpartum je me suis questionnée tu vois en tant que psy parfois tu fais des petites hypothèses et tout tu dis peut-être qu'il y a autre chose aussi derrière mais bon après c'est pas le sujet de Insecure mais c'est aussi une forme de insecurity en fait.
C'est ça.
Comment tu te sens en tant que femme noire et mère et avec toutes tes potentielles insécurités de te retrouver un peu out of the box, out of the group aussi de copines quand elles n'en sont pas à ce moment-là de leur vie.
C'est ça. C'est vrai que c'est intéressant de voir que c'est la première du groupe à devenir maman. Comment l'enfant est accueilli, hein, tu sais, dans cette notion de on est plusieurs à élever l'enfant. Et ouais, c'est vrai que j'y avais pas pensé sous cet angle-là. C'est très intéressant. Et une sécure, c'est, je pense que pour une psy ou une sociologue, c'est vraiment la série où tu décèles plein de trucs, tu notes plein de trucs.
Et bah même pas, je la regarde en tant que personne, hein, humaine. Quand je regarde ces séries-là, je suis en mode ouais. Really? Is this really happening? Lawrence, really? Really? C'est plutôt ça, je la regarde même pas comme si. En général, je suis très détachée de ça. Quand je regarde cette série-là, je la regarde. Ouais, bah moi aussi, je suis une femme. Non, ouais, bah ça, je suis d'accord. Ah ouais, non, vraiment, là, un tel, il exagère. Après, on se dit avec mes copines parfois, ouais. Ouais, non, machin. Ah non, on l'aime pas du tout. Là, tout le monde sur les réseaux est en mode Molly.
Oh là là.
Partout. Molly, c'est vraiment...
Qu'est-ce qui se passe
là? Oui, la friendship et tout. La friendshipness, la sorority entre femmes noires. C'est ça. Alors, en ce moment, je vois beaucoup ça sur les réseaux, de dire « Non, mais she's a bitch », etc. Wow, wow. Les gens sont chauds sur Molly, en fait. Hein. Wow.
Mais c'est vrai que Issa Rae a fait un truc de fou, quand même. C'est de montrer qu'on avait des vies normales, en fait. Voilà.
Et puis parler de sujets qui parlent aussi aux femmes noires.
Exactement.
Et ça, c'est ça, moi, que j'ai trouvé vraiment beau. Et puis, je sais pas si tu sais qu'elle est sénégalaise.
Oui, c'est la première chose que...
Aïe, 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 la tentative, quoi.
Mais ouais, de voir aussi le fait qu'elle est afro-américaine, mais aussi africaine de par son papa. Après, on le ressent pas forcément à travers la série, mais c'est vraiment intéressant de voir. C'est une autre immigration en fait. Donc ouais, non, c'est une super série et je crois qu'on, je pourrais faire tout un épisode du podcast sur elle.
Je reviendrai.
On pourra faire une session avec d'autres invités.
Ah, trop
mode,
cool.
Chill out.
On va analyser Insecure, comment on se sent nous ici.
C'est une super idée, franchement. Je note.
Comment on se sent nous ici en France, en tant que femme noire face à ce genre de série, sachant que nous n'avons pas ce genre de série en France.
Exactement.
Et comment, pourquoi est-ce qu'on a ce besoin de regarder des séries outre-Atlantique, en fait?
Et c'est fou parce que pour finir, t'as beaucoup, toutes les personnes que j'interview et je leur demande du coup de me citer une actrice, la plupart du temps c'est des Afro-Américaines. Il y a pas beaucoup d'actrices françaises, à part Aïssa Maïga de temps en temps. Enfin voilà, c'est très fermé et puis africaine c'est encore autre chose. Donc il y a du boulot, hein, je pense.
Et pourtant au Nigeria, il y a Nollywood, oui, etc. Mais ça a du mal à passer la frontière de la France,
c'est
en fait.
Clair.
Puis après, il y a l'Afrique du Sud aussi, il y a de très belles choses.
Ouais.
Il y a une série Netflix, comment ça s'appelle ?
Blood and Water.
C'est celle dont tout le monde parle en ce moment. Il y en a une juste avant avec une femme inspectrice.
Attends.
Ouais, j'avais trouvé ça cool d'avoir une série. Parce qu'il y a plein de choses en Afrique du Sud, en fait. La musique. Ah ouais, c'est ça que je voulais dire. J'aurais pas dû dire Erik Abadou, j'aurais dû dire l'autre. Est-ce que je peux dire Erik Abadou et Zonke ?
Ah, je connais pas du tout. Comment tu écris ça ?
Z-O-N-K-E. En fait, j'aurais pu dire elle aussi, ouais. Parce que j'adore...
Zonke. Alors,
je sais pas si on dit Zonki, Zonke.
Je ne connaissais, mais pas du tout.
Mais j'adore. C'est vraiment le style sud-africain.
Ok.
Je sais plus si elle chante en Zulu aussi parfois, sinon elle chante en anglais.
Ouais.
Peut-être en Xhosa.
Zonke, ok. D'accord.
Ouais, donc finalement, j'aurais dû dire...
Est-il trop tard?
Est-il trop tard pour passer un autre petit son?
Les meufs qui abusent.
Ah mais oui, mais vous êtes trop gentils, c'est trop bien ici.
Ah mais c'était Queen Sono.
Oui, c'était Queen Sono, yes. Il y a plein de musique super cool aussi dans Queen Sono.
Oui, Ah.
Ah voilà.
Je connais pas du tout.
Et ça c'est vraiment le style, tu vois, un peu sud-af où il y a un mélange et tout, comme un mélange de saveurs et tout musical, j'adore. Ouais.
Elle est belle, hein.
Elle est trop cool.
Je note. Merci Annabelle pour cette belle
découverte.
Alors, on termine. En plus, c'est la fin de la saison 1 et tout. Si je te dis « Tant que je serai noire », comment tu finirais cette phrase ?
Je dirais « Je me battrai ». J'espère que ça a pas été trop dit avec toutes les autres invités.
Bah après c'est vrai, c'est une réalité. Hein. Moi aussi je le pense. Hein. Tant que je me battrais. Donc ouais.
Mais c'est ce qui me vient vraiment. Mais ouais. En ce moment, en plus, tu vois, avec toutes ces violences policières, etc., ça me vient viscéralement,
ouais.
Tu vois.
Ouais.
Quand les gens commencent à lever leurs poings en manif et tout, je me dis mais waouh quoi. Ouais. Genre waouh. Mmh. On est là, mmh. On est tous ensemble. Mmh. On dit non, mais il y a pas tant que ça de violences policières en France et plutôt aux États-Unis. Bah si, il y en a ici aussi. Mmh. Et non, on devrait pas avoir à se faire tuer parce que oui, mais non, en fait, ce sont de petits délinquants, etc. Non, mais c'est pas la question en fait. Ça n'a rien
Vous
à voir avec
tué
ça.
Tuer quand même des gens, quoi. Tuer.
Il y a des gens qui sont morts. Il ouais. y a des gens qui sont pas incarcérés pour avoir tué d'autres personnes. Mmh. Et du coup, moi, en ce moment, c'est c'est un peu mon truc, quoi, viscéral avec les personnes que j'accompagne aussi, avec tout ça, de se dire mais non, mais en fait, c'est bon là. C'est bon, en fait, stop. Et puis, en fait, on va commencer à parler et on a beaucoup de choses à vous dire.
Ouais. Et du coup, pour finir en tant que psy, surtout en cette période, hein, l'épisode va sortir là en juillet, quels seraient les conseils, parce que j'ai vu sur les réseaux que tu incites les gens à faire des pauses quand il le faut, prendre soin d'eux. Comment est-ce que tu voudrais justement t'adresser à tous nos auditeurs, auditrices, femmes, hommes, tout confondu, prendre soin de leur santé mentale dans cette période?
Mais je crois que tu as déjà donné une partie de la réponse qui est très intéressante, de prendre soin de sa santé mentale. Ça peut se faire de plusieurs manières. On ne dit pas... moi, à mon sens, comme je disais à mon frère, coucou mon frère, à mon sens, tout le monde devrait être suivi. Parce qu'on a tous des choses à travailler. Ouais. Parfois, on pense que non, mais ça va. Mais en fait... quand on commence à bien regarder, dès lors on commence à travailler sur soi, il y a toujours des choses qui apparaissent. Ouais. Donc on se dit non, mais bon, parfois il y a des personnes qui viennent me voir pour me dire oui, je veux travailler sur telle chose, je travaille sur mon anxiété, etc. Mais l'anxiété, elle part d'où en fait? Quel a été votre vécu jusqu'à présent? Il y a énormément de choses à travailler sur le présent parfois, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Je sais pas si par exemple une personne qui a eu un accident, un deuil, etc., il y a quelque chose là qui se passe là tout de suite. Ouais. Donc on travaille sur là, maintenant, comment ça va pour aller mieux. Mais après, on remonte aussi un petit peu. Oui. On regarde ce qui s'est passé, l'histoire, le vécu de la personne. Ouais. Et du coup, pour moi, ce serait de dire que c'est important d'arrêter de dire que la psychologie, c'est pour les blancs. Parce que non, c'est pas vrai, en fait. Enfin, on a tous un cerveau. La santé mentale, c'est pour tout le monde, en fait. Ouais. Et là, on universalise même pas en disant ça, que la santé mentale, voilà, toi, comme moi, comme nous tous, en fait, on a besoin de travailler dessus. C'est pas inné, en fait. Ouais. Nos parents ont fait l'économie de ça, ça veut pas dire que c'était bien pour autant.
Ouais, c'est
clair. Moi, je dis bon, un jour, on va s'attaquer à ça aussi. Ce serait bien que nos parents aussi aillent chez le psy.
Ouais.
Mais bon, eux, c'est encore une autre affaire. C'est un autre chapitre. Mais nous, là, nous tous, nous toutes qui écoutons des podcasts, des choses, tu vois, les podcasts, je trouve que c'est une ressource qui est intéressante. Ça nous permet de penser les choses différemment, d'entendre des témoignages, de voir un peu, de voir autre chose que ce qu'il y a potentiellement autour de nous, selon où on habite, où on vit, etc. Après, il y a aussi les lectures.
Oui.
On peut lire des choses, comme je te disais, bon voilà, du développement personnel, des petites choses comme
mais
ça.
Mais oui, j'ai oublié de te demander ta lecture, en fait.
Oui, je sais. Ouais. Je pensais que c'est parce qu'on a dit trop de trucs. Je dirai après, c'est pas grave. Bah, justement, pour la lecture, moi, je pensais à Ne suis-je pas une femme de Bell Hooks. Parce que, je l'ai lu cette année parce que du coup en plus ça fait enfin je l'avais déjà acheté mais j'achète plein de livres parce que j'adore les livres et il y a eu le club de lecture Read sur ce livre en plus avec une collègue et amie psy et je me suis dit c'est le moment là là en fait on va lire tout de suite et je me suis dit mais pourquoi j'ai autant attendu un livre en 300 pages qui parle mais de tellement de choses qui est vraiment très dense en fait qui recèle énormément d'informations et pour ça pour moi tout ça comme notre entretien aujourd'hui comme les podcasts de manière générale c'est du matériel à penser c'est du matériel sur lequel on reste critique Bell Hooks ce sont les femmes africaines américaines noires c'est pas nécessairement notre vécu ici
effectivement
on n'est pas tous issus des mêmes espaces Bon, parfois, je dis un peu les communautés noires. Bon, c'est une manière de dire, mais c'est vrai que c'est compliqué. Quand on dit la communauté noire, ça m'insupporte.
Oui, non.
Mais on parle de qui? On parle des noirs d'ici? On parle des noirs de la Caraïbe? Il y en a en Amérique du Sud aussi? Il y en a en Australie? Il y en a en Afrique? Enfin, je suis désolée, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais on peut lire, garder un esprit critique. Il y a aussi le livre de Robin Maynard, que je n'ai pas encore lu. Mais que je vais lire aussi, qui a l'air fort intéressant pour essayer de penser ces questions-là. Donc là, c'est le prisme du Canada, c'est une personne qui est militante aussi, c'est une femme noire. Donc je pense que tout ça, il faut vraiment le prendre comme du matériel à penser. On a tout ce matériel, on a une certaine accessibilité à nombre de choses qu'on n'avait pas auparavant.
C'est clair.
Voilà, je pense aussi, voilà, moi par exemple quand j'habitais au Sénégal, c'est sûr qu'à la librairie il y a plein de choses intéressantes, mais parfois il y a des ouvrages que je voulais.
Oui.
Et bon, pour les commander, ça coûtait super cher parce que les frais de port étaient énormes. Mais maintenant on a Internet.
Oui.
On peut aussi acheter des éditions en digital. Tu vois, je pense qu'il y a tout ça en fait.
Ouais.
On navigue à travers tout ça et ça part de nous. En fait, quand on va voir un psy, par exemple, l'autre fois j'ai une personne qui m'a dit j'ai une amie, je pense que ce serait bien qu'elle consulte parce que ça va pas, etc. Et j'ai trouvé ça très honorable de sa part de venir parler à une psy pour son amie. Mais je lui ai dit, la demande, il faut que ça parte d'elle.
Bah, s'il y a un changement qui doit s'opérer, il faut que la personne...
La psychothérapie, voilà, moi je peux avoir une personne de mon entourage proche et lui dire, bon écoute, je pense que ce serait bien que tu consultes. Mais tant que la personne ne se réapproprie pas cette demande pour elle-même et en elle-même vraiment de construire ce projet à l'intérieur de soi, de se dire, là, that's the time. C'est le moment, en fait, où je vais essayer.
Ouais.
Et rien que chercher un psy, c'est déjà le début de la démarche.
C'est clair.
Après, on ne dit pas qu'il faut... Ça ne veut pas dire qu'on va être suivi pendant 10 ans par la même personne. On peut être suivi pendant un temps, puis arrêter, puis reprendre.
Oui.
En fait, c'est beaucoup plus souple qu'on ne le croit, la thérapie. Moi, j'ai des personnes qui peuvent me consulter de manière mensuelle, parce qu'au niveau, de leur, je sais pas, de leur salaire, etc., c'est compliqué de faire plus.
Oui.
Bah, c'est pas grave. Moi, je dis, on s'adapte. On travaille pas de la même manière si on vient toutes les semaines une fois par mois.
Oui.
Mais une fois par mois, c'est déjà bien.
Exact.
Donc voilà, moi, je dirais, tenter, lisez des choses, le fait de s'intéresser, d'en discuter aussi avec
c'est
ses amis,
pas,
parce que parfois il y a des, parfois autour de nous on se rend compte qu'il y a des personnes qui consultent des psys mais qui ne le disent pas, parce qu'il y a un petit côté tabou aussi de dire puis comment est-ce que ça va être perçu, donc voilà.
Top. Ben, merci beaucoup Annabelle.
Avec plaisir.
Belle conclusion de cette saison. Et puis, ben, j'espère que cette saison vous a plu et que vous allez continuer le débat avec nous sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. C'est pas pour moi, hein, c'est pour que le podcast ait plus de visibilité et qu'on entende toutes ces voix oubliées la plupart du temps. Merci beaucoup. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
Bah pour le mot de la fin, je dirais Kraata, qui veut dire merci en Sara. Genre, je cale un petit truc en Sara, comme ça, au passage. Enfin, un petit coucou à la famille. Voilà.
Merci, Annabelle.
Avec plaisir.